Bonjour Tiffaine, et de notre côté, on continue de remonter Madison Avenue, cette artère de New York peuplée de ces fameux publicitaires.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, jeudi, quatrième et dernier épisode consacré à cette série à infusion lente, comme l'a décrit son créateur Matthew Weiner, Mad Men. À l'origine, il y a un scénariste dont personne ne veut développer le projet peu commun, lequel consiste à raconter les sentiments des Américains de la classe supérieure baignant jusqu'à se noyer dans la modernité des décennies d'après-guerre. Matthew Weiner est passé par la production des Sopranos avant qu'on ne lui fasse confiance pour créer cette série qui va devenir culte et qui est sans équivalent stylistique, comme nous l'a raconté lundi Emmanuel Burdeau lors d'une émission à retrouver en podcast. Ce style, il faut le comprendre au sens propre comme au sens figuré, car rien n'est plus recherché que le design de cette série formellement parfaite. Nous l'avons vu mardi avec Nathalie Azoulay, auteure du livre Mad Men, un art de vivre aux éditions de La Martinière. Enfin hier, de retour des États-Unis où elle a travaillé dans les archives de la série, la chercheuse en littérature anglaise Ariane Hudley est venue nous en parler. Elle s'est également attardée sur les musiques de fin d'épisode. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour parler de la place des femmes dans cette fresque sur les années 60, je serai en seconde partie de cette émission avec l'américaniste Romain Huret. Ce sera après la chronique de Nathalie Frolov. Mais d'abord, pour évoquer la société de consommation et l'imaginaire postmoderne déjà en germe dans la série, nous sommes avec Fabiola Rocca, sociologue, philosophe, maître de conférences à l'université Paul-Valéry de Montpellier, auteur de l'essai La ville dans tous ses états chez CNRS Éditions, ainsi que d'un article sur notre sujet de la semaine dans la revue Société, intitulé Mad Men, style et culture de l'empire publicitaire. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
So what do you do, Don?
I blow up bridges.
Don's in advertising.
No way. Madison Avenue, what a gas.
Alors, vous faites quoi dans la vie, Don?
Je dynamite des ponts et des routes.
Don est dans la publicité.
C'est pas vrai. Madison Avenue, le pied intégral.
Que veux-tu, on doit tous servir un maître.
Vous êtes les artisans du mensonge. Comment vous dormez la nuit?
J'ai des billets plein mon matelas.
Ça, c'est une rencontre.
Vous êtes les escrocs qui, dans leur tour d'ivoire, ont créé la religion de la consommation.
Tout le monde aime qu'on lui dise quoi faire, au point que les gens écouteraient n'importe qui.
À vous entendre parler des gens, j'ai l'impression que vous vous prenez pour Dieu.
C'est drôle, moi j'ai l'impression que vous passez plus de temps sur votre coiffure que Midge.
Allez aux toilettes, vous verrez qui a la plus grosse des deux.
Une série sur l'élégance, hein, on l'a dit en introduction, avec cet extrait de l'épisode 6 de la première saison où un jeune homme à la vie plutôt bohème reproche au cadre exécutif de la publicité qu'est Don Draper d'être un vendu de la société de consommation. Bonjour Fabiola Rocca.
Bonjour.
Est-ce que vous diriez effectivement que Don Draper est un vendu à la société de consommation?
C'est plutôt un vendeur de la société de la consommation. Et en fait, il faut bien rappeler que c'est juste la dualité. Donc, ce qui est intéressant dans la figure de Donald Draper, c'est cette dualité. Le jeu en autre, hein, disait Rimbaud. Et là, on le retrouve dans cette figure charismatique de Donald Draper qui vend le rêve. Et donc, il y a cette capacité, avec les mots, d'imaginer le monde. C'est ça le travail qui fait un peu ces marketeurs de la société de la consommation. Et donc lui, d'une certaine manière, c'est le vendeur de ses rêves, hein, avec ses slogans qu'il trouve dans les bars, avec son intelligence à capter l'esprit du temps, qu'on retrouve après dans tous les slogans qu'il arrive à lancer avec une facilité. Mm. Mais sachant que lui aussi, c'est cette double figure un peu monstrueuse à l'intérieur et qui arrive quand même à vendre le rêve. Qui était justement celui de la publicité des années 60.
C'est d'autant plus une double figure que, comme on l'a déjà dit cette semaine, il cache son identité réelle, puisque c'est en réalité le fils d'une prostituée qui a connu une enfance difficile et qui, pendant la guerre, a repris le nom d'un mort.
Oui, et c'est une sorte de... On peut le voir aussi comme une sorte de revanche, d'une certaine manière. Lui qui venait de fils d'un prostitué, justement, il se... Il renouvelle son identité, il se crée un personnage. Et donc, tout ce qu'on peut voir pendant les saisons de la série, c'est la façon de jouer son personnage. Et donc, là, il y a cette force, justement, de se mettre en spectacle lui-même et de jouer avec cette double identité. Et donc, là, c'est une double identité qu'il faut savoir, c'est quand même aussi difficile, hein, d'un point de vue psychologique, on peut le comprendre. Et lui, il est toujours sous le seuil, on peut dire. Hein. Mais il a cette capacité de sortir du seuil pour pénétrer le cœur de la vie puissante de New York, de la publicité.
Donc Don Draper est aussi réel, existe autant que la publicité est réelle par rapport au monde moderne, par rapport au monde en général. Don Draper est un faux d'une certaine manière, mais qui vient se greffer sur quelque chose qui existe vraiment.
Bah, Guy Debord, il y a une belle phrase de Guy Debord dans la société du spectacle, le vrai c'est un moment de faux. On peut dire aussi que le faux c'est un moment de vrai. Et là on le voit justement que Donald Draper c'est un fake en tant qu'identité, mais c'est le vrai en tant que puissance sociétale, en tant qu'esprit du temps. Il l'incarne. Ce moment historique des États-Unis et du monde entier par rapport à cette nouvelle figure qui émerge et qui aujourd'hui on le retrouve dans notre société contemporaine disséminée partout, hein, à partir du macronisme qu'on peut voir.
C'est une série macroniste, Mad Men ?
Non, je dis que le côté de société du spectacle montré par Mad Men, cette génération de créatifs, on le retrouve après dans une sorte de macronisme contemporain, sans rien critiquer, mais dans le sens de cette puissance sociétale d'aujourd'hui, de tous les start-up, de cette création des créatifs culturels, qui est déjà en figure sociale lancée dans les années 90. Et donc là, on retrouve cette figure stylistique d'une époque, une figure caractéristique d'une époque dans les années 60, pardon, qui on peut la voir encore aujourd'hui, dans une autre manière.
Donc, Madison Avenue, c'est cet endroit à New York où, dans les années 60, se sont installés ces publicitaires, ces ad men, d'où le jeu de mots des hommes fous, Mad Men. On peut considérer peut-être, Fabio La Rocca, qu'on est là, à ce moment-là, dans l'histoire des États-Unis et du monde, dans ce lieu-là en particulier, à un point de départ de la société que l'on connaît aujourd'hui.
Tout à fait. Bah, chaque lieu possède son génie. Il y a le genus loci, illustré par différents auteurs. Et là, on voit que Madison Avenue représente ce fulcre puissant de la société américaine. Ces fous de la publicité, dont le nom de la série, sont ancrés dans ce lieu qui devient l'épicentre de la créativité mondiale. Et donc, il y a ce jeu qu'on peut mettre en perspective, que c'est la ville, la puissance de la ville, l'imaginaire de New York qui crée ce monde-là. Hein, c'est ça aussi, cette idée du genius loci, hein, comment il y a cette créativité qui se crée à partir de la créativité du lieu, qui pousse l'énergie sociale. Donc je vois que justement Madison Avenue était centrale dans ces années-là, parce que ça devient le centre du monde, si je peux dire, dans cette période historique caractéristique des années 60. Et c'est de Madison Avenue qu'après commence cette contamination mondiale des objets, des nouvelles figures, des images, des styles de vie, etc. Donc c'est ce genius loci de Madison Avenue qu'après on retrouve disséminé dans l'Europe avec l'américanisation du monde d'une certaine manière.
Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce parallèle, mais c'est un petit peu comme si Madison Avenue dans les années 60 projetait la société mondiale très publicitaire des années 80. On dit beaucoup que les années 80, c'est vraiment les années de la publicité, de la même manière que la Silicon Valley de Steve Jobs dans les années 80 est la graine qui, aujourd'hui, a créé la société qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ce parallèle vous semble faisable ?
Tout à fait. Je pense que c'est un parallèle qui tient. Parce que là encore, c'est l'Amérique, toujours, qui lance ces modes, si je peux dire. Modes dans le sens de modalité de vie et donc aussi économique. Et je pense que la Silicon Valley, même s'il a perdu un peu la puissance, la Silicon Valley aujourd'hui, mais était quand même ce nouveau lieu, hein, ce nouveau fulcre vital qui a contaminé le monde entier. Et on le voit comment aujourd'hui, dans toute l'Europe en particulier, il y a cette contamination. Et je pense que l'idée de start-up, ça vient aussi de ce succès américain typique de la Silicon Valley.
Donc on n'est déjà plus les enfants de Mad Men maintenant, on est déjà passé un petit peu à autre chose.
Maintenant que nous, en tant que notre âge, peut-être on est plus des enfants de Mad Men. Parce que je trouve que dans cette série, il y a tout le côté nostalgie du passé. Mmh. On sait que le passé, il est toujours présent. Hein? Nous vivons le présent grâce au passé. Et là, je trouve intéressant voir de quelle manière l'objet joue un rôle principal dans nos sociétés. À partir des années 60, où était le lancement de la culture pop, ce qu'on appelle la culture pop, quelque chose qui pétille, qui scintille. Et là, on le voit dans la diffusion des objets partout. Et l'objet, ce n'est pas quelque chose d'un attachement, disons, économique, mais c'est plutôt symbolique. Hein? L'objet, il a une âme. Et en fait, on peut le voir comment la publicité a pu jouer sur cette idée-là, de donner une âme à l'objet. Mm. Hein? Et après, bon, bien sûr, il y a tout le contexte économique, société de consommation, capitalisme, etc. Mais je trouve que si nous sommes les fils de Mad Men, d'une certaine manière, c'est par rapport à cette aussi de nostalgie du passé, par cette stylisation du monde, par rapport au design, par rapport aux objets, par rapport à la nostalgie qui devient aujourd'hui nostalgique d'une certaine manière.
Et en même temps, le design aujourd'hui, c'est le design de l'immatériel. On n'a plus d'objets précisément, on a de moins en moins d'objets. Les photos qui étaient des objets physiques jusque dans les années 90 sont aujourd'hui des objets dématérialisés. Le design devient du design graphique, du design d'interface. Et tout cela, c'est à la fois post-Mad Men et en même temps, c'est en germe dans Mad Men parce que Mad Men est une série sur les images.
Oui.
Fabio La Rocca.
Ben justement, il y a une forte inspiration dans ça. Si on voit le générique de Mad Men, on voit comment on est projeté dans ce monde de l'image. Et comment il y a cette infiltration visuelle dans la société contemporaine. Tout est né dans les années 60. Si nous vivons ce bombardement, cette pollution d'image, les mots sont, il en existe plusieurs, c'est parce qu'il y a ce monde des années 60. Vous dites bien qu'on va vers l'immatérialité, mais l'immatérialité est donnée par un support, par un dispositif. Et donc, un dispositif, ça reste un objet qui permet cette immatérialité. Donc, il y a toujours ce jeu qu'on peut faire entre l'évolution stylistique des époques et voir comment les archétypes vont rejouer un rôle central dans nos sociétés.
Elle refuse de se marier parce qu'elle n'a jamais aimé. J'ai écrit un slogan comme ça pour vendre des colons.
Pour un tas de gens, l'amour n'est pas qu'un slogan.
Ah oui. Vous parlez du grand amour, comme dans les films. Celui qui vous fait perdre la raison et perdre l'appétit. Celui qui vous fait tout quitter pour aller vous marier et faire des bébés. C'est normal que vous ne l'ayez jamais ressenti, parce que ça n'existe pas. Ce que vous appelez l'amour a été inventé par des types comme moi, pour vendre des colons.
Ah oui, vraiment.
J'en mettrai ma main au feu. On vit seul et on meurt seul. La société nous impose tout un tas de règles pour nous faire oublier ça. Mais moi, je ne l'oublie pas. Je vis comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que je sais que c'est vrai.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Mad Men d'un point de vue plus philosophique et plus sociologique, avec vous Fabio La Rocca. Ce que vous appelez l'amour a été inventé par des types comme moi, dit Don Draper à l'une de ses clientes qu'il cherche à séduire dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Ça vous inspire quoi, Fabio La Rocca, cette idée de l'invention de l'amour par la publicité? Ça n'existe pas, l'amour?
Oui, l'amour existe pas dans la publicité à mon avis, mais ce qu'il dit Donald Draper, c'est très intéressant, c'est parce que justement lui c'est un vendeur encore une fois, et donc vous savez que les vendeurs n'ont pas d'âme, d'une certaine manière, non? Et ils sortent de soi-même, c'est ça qui m'intéresse dans le personnage de, aussi d'un point de vue psychologique de Donald Draper en particulier, mais d'autres personnages de Mad Men. C'est ce fait justement que lui doit essayer de vendre un collant, les collants pour les femmes, et mais il le fait sous le thème de l'amour. Et d'une certaine manière, ça marche. C'est parce que justement, on s'attache à des choses qui sont symboliques. Et donc, on sait depuis la naissance de notre monde comment les symboles jouent un rôle primaire dans notre vie quotidienne. Et donc là, justement, il joue sur l'archétype de l'amour pour vendre des collants, pour faire pour une sorte de désir. En fait, c'est on le sait très bien, le marketing, la publicité en particulier, c'est cette vente du désir. Et donc, l'amour, il est vendu. Hein, mais l'amour, c'est autre chose, on le sait. Mais par contre, on le retrouve dans ces multiples objets avec un discours derrière. Donc, c'est ce discours, et Donald Draper très fort dans ses discours, qui fait rêver, qui fait vendre, parce que il nous injecte le désir de l'amour, le désir de la femme, le désir du corps,
etc. Mais que lui n'a même pas, puisqu'il explique que l'amour n'existe pas, que c'est une invention, Fabiola Rocca.
Oui, mais...
Il vend ce qui n'existe pas, ce qu'il ne peut même pas expérimenter lui-même.
Et c'est ça, malgré lui, c'est son intelligence. C'est l'intelligence de ces types marketeurs, dont je fais pas la publicité, moi. Hein, je n'aime pas trop le marketing, en plus, mais je l'analyse d'un point de vue sociologique, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. L'amour n'existe pas, mais je vous le vends. Donc, vous pouvez retrouver cet amour qui n'existe pas dans les collants, dans les objets, qui permet à la femme de se faire désirer d'une certaine manière. Donc, si l'amour n'existe pas, je vous le révèle, hein, au travers d'un objet.
Donc, vous expliquez que ces Mad Men, ce sont des créatifs, et le mot créatif est très important, parce que c'est un type de métier, un type de personnalité qui va émerger de manière massive dans ces années 60-70. Et aujourd'hui, tout le monde est créatif. Vous qui travaillez sur la ville, vous savez aussi que on parle de ville créative aujourd'hui de plus en plus. C'est même devenu un cliché. Est-ce que ces créatifs-là sont forcément des cyniques? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux termes-là?
Il y a un lien, parce qu'en particulier dans les créatifs de la Madison Avenue, le cynisme est le pain quotidien. Mais il faut voir quelle est la force aujourd'hui dans les strates de la société par rapport à cette créativité. Je le vois par exemple dans les Fab Labs, dans cette créativité de jeunes, dans les makers par exemple. Et là, je vois pas trop le cynisme. Mais c'est vrai que cette créativité, vous le dites bien, est devenue un cliché. On parle de créativité partout, dans tous les sources, et ça devient un leitmotiv, que c'est quelque chose qui marche. Aussi d'un point de vue, justement, encore une fois, du marketing, d'insister sur la créativité. On parle de villes créatives, mais pour moi, il n'y a aucun sens de dire villes créatives. Mais il y a un sens qu'on peut retrouver dans certaines actions, dans la ruse quotidienne, qu'on peut voir cette créativité. Le fait, c'est de se débrouiller aussi dans son quotidien, qu'on peut voir dans nombre de phénomènes de la jeunesse, par exemple.
Mais la créativité ou l'individu créatif, c'est un peu l'individu de la postmodernité aussi. Et en cela, Mad Men est à la racine, d'une certaine manière, de cette société-là, vous ne croyez pas, Fabiola Rocca?
Oui, tout à fait. C'est parce que la créativité, c'est un de ces signes contemporains, hein, qui a développé cette société qu'on peut appeler postmoderne, hypermoderne. Les mots sont encore une fois différents. Parce qu'on voit bien comment, dans la suite des années 60, on a créé l'objet. Et la première évolution dite...
L'objet, vous voulez dire...
Dans le sens du postmodernisme. Le postmodernisme est né en architecture, en design. C'est par rapport aux formes.
Oui.
Et donc,
c'est retrouver une forme de joie, de créativité justement, de jeu aussi dans la forme qui, durant le modernisme, était une forme où la forme devait suivre la fonction. Et donc, ça rigolait pas beaucoup. Quoi, oui. En gros.
Donc, il y a l'éclectisme des formes. Hein, c'est Robert Venturi de l'ambiguïté en architecture qui le montre bien. C'est le Learning from Las Vegas. Donc, on voit qu'il y a cet éclectisme dans les formes objectales et un éclectisme dans les formes individuelles, qui amène à cette créativité comme vraiment une force énergétique, encore une fois, de la vie quotidienne. Et je suis d'accord avec votre analyse que cette créativité est un de ces signes distinctifs de l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, c'est quelque chose qui naît dans les années 60, qui fait son chemin, son parcours, et qui devient quelque chose d'épocal, donc de notre contemporanéité.
Donc on voit bien que c'est une série qui raconte une histoire sociologique aussi. C'est l'histoire de la transformation de nos mentalités quand même.
Tout à fait, c'est une série que moi je définis historico-sociale, parce qu'on traverse les époques et il nous montre l'évolution de la société. D'un point de vue historique, on le voit avec l'histoire des États-Unis, mais surtout d'un point de vue social avec l'affirmation de la femme, hein, qui est un thème très important. Vous en avez déjà parlé dans une autre émission.
On va en parler tout à l'heure.
Vous en avez parlé. L'idée des minorités. Donc on voit cette évolution sociétale, donc la mise en forme de la société, je dirais. Ouais, c'est ça l'évolution socio-historique qu'on peut observer dans la série.
Et l'évolution, on la voit aussi, vous le dites, dans les objets, mais aussi dans le mobilier, la manière dont, d'une saison à une autre, l'agence se transforme et change de bureau, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort visuellement.
Oui, tout à fait. Déjà, on voit la dynamique de l'open space, hein, qui aujourd'hui, on le voit dans les startups contemporaines. Et surtout, ce qui est intéressant dans un épisode, c'est quand il arrive la machine, l'ordinateur, qui choque. Hein, c'est l'élément perturbateur des immeubles, hein, quelque chose qui va perturber la société, qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Et c'est ça, justement, cette évolution des objets, mais une évolution de l'objet qui s'accompagne à l'évolution du comportement social, et donc d'un choc sociétal.
New York on Sunday, big city taking a nap. Slow down, it's Sunday, life's a ball, let it fall in your lap. If you got trouble, just take them out for a walk. They'll burst like bubbles in the fun of a Sunday in New York.
Bobby Darin, Sunday in New York. Alors, comme vous êtes un spécialiste de la ville, Fabiola Rocca, j'ai évidemment envie de vous poser des questions sur la ville de New York, qui semble presque un personnage de Mad Men. C'est le cas pour vous ?
Tout à fait. Même si on ne voit pas la ville, il y a cette projection dans la ville.
Alors, c'est ça qui est fou, c'est que c'est une série qui a été tournée à Los Angeles en studio. Hein.
Exactement. Mmh. Donc, encore une fois, c'est le fake, de certaine manière. Non, c'est typique de l'idée publicitaire. Tourner à Los Angeles, mais qui parle de New York, il y a cette projection par la vitre qui nous fait penser le dehors. Mm. Le dehors, on ne le voit jamais dans les premières saisons. On voit les bars, on voit les intérieurs des bureaux, on voit le train, on voit la campagne, en fait. Donc, et dans les dernières saisons, on voit la Californie, on voit la plage, on voit les temples hippies, etc. Mais par le fait qu'on parle de Madison Avenue. Il y a encore une fois cette projection typique qui fonctionne dans les images de la série, même du cinéma, de nous projeter dans l'ambiance de la ville. Mm. Donc là, la ville est vécue par, si je peux dire, par écran interposé. Cet écran interposé, c'est le miroir de la vitre qui nous projette vers les gratte-ciels qui sont dehors, et donc qui nous font plonger dans la ville de New York.
Ça veut dire aussi que New York, c'est un miroir aux alouettes pour les personnages, parce que New York, c'est la ville du pouvoir, c'est la ville où on peut devenir quelqu'un d'autre, c'est la ville aussi où on peut se cacher, où on peut être anonyme.
Exactement, parce que surtout pour cette époque-là, et déjà le gratte-ciel, tout un symbolisme puissant, c'est l'idée de domination. Commercial, mais aussi culturel et donc symbolique. Et c'est ce miroir des Alouettes, ou peut-être le miroir d'Alice
au Pays des Merveilles.
Encore une fois, moi j'insiste sur cette idée de projection, parce qu'on va l'image et le miroir dans ce cas nous permet de nous projeter dans et vers quelque chose. Et donc on le vit de cette manière symbolique, toute la puissance de la force imaginaire de New York, et de Madison en particulier comme symbole de la puissance économique, et donc aussi de l'arrivisme. D'ailleurs, beaucoup de personnages de Mad Men, on peut les évoquer en pensant à la comédie humaine de Balzac, avec des Rastignac, par exemple.
Oui, ce sont des Rastignac, oui. Hein, globalement. Et ces Rastignac-là, ils vivent dans la ville. Au fond, ils ne pourraient pas vivre ailleurs, parce que ce sont des individualistes, et la ville permet de vivre seul ou presque seul.
Exactement. Et d'ailleurs, on le voit dans la figure de Pitt, qui abandonne sa femme, parce qu'il vivait à la campagne, et vient vivre à la ville, justement, pour être au centre. Dans ce fou, parce que lui c'est le vrai de Rastignac de la situation, c'est Pete ou Peter, et donc on voit comment la ville devient cette centralité de la vie sociale qui donne des opportunités, qui offre des opportunités. On le sait que New York c'est la ville par excellence, je peux dire, où tout est possible à tout moment. Tout peut arriver chaque seconde de votre existence. Donc il y a cette puissante énergie de New York qui est un fulcre vital. Donc il y a le fait de se cacher, d'être anonyme, et le fait d'être dans la masse, donc de s'immerger dans la masse et d'émerger de la masse comme personnage.
Être anonyme et peut-être aussi être insensible, c'est aussi la ville de l'insensibilité à l'autre, New York.
Je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça, parce que l'idée, l'anonymat nous permet de nous cacher, mais aussi de nous faire voir. Donc, dans l'anonymat, l'homme de la foule, c'est l'homme qui observe, qui regarde, qui scrute. Et par coup d'œil, comme dirait Simmel, on rentre en relation. Et donc, New York offre 1000 possibilités de rencontre, et donc de sortir de l'anonymat. New York comme Londres, comme Paris d'ailleurs, hein, mais New York en particulier, parce que c'était le fulcre de cette société de la consommation, donc de l'anomie, toutes les dérives sociétales par rapport à ce monde-là. Mais je pense qu'il y a une forte sensibilité de la ville à donner des possibilités. C'est ça la magie de New York, tout est possible.
Oui, mais c'est la fluidité des rencontres, et ce sont des rencontres qui annoncent peut-être le mode de vie ultra contemporain, c'est-à-dire des rencontres nombreuses, mais dont il est peut-être plus difficile de créer des relations durables. En tout cas, c'est un petit peu l'idée qu'on se fait de l'explosion de la communauté telle que la grande ville le permet et telle que la postmodernité l'encourage, Fabio La Rocca.
Oui, c'est la rencontre, c'est la fugacité, et c'est aussi la bonne occasion. C'est le carpe diem, d'une certaine manière, la grande ville, la métropole. C'est cette intensification de la vie qui permet 1000 possibilités de rencontres. Et justement, une grande métropole comme New York permet de nous d'être un peu dispatchés individuellement. Et donc, de faire circuler le moi dans plusieurs soi, dans le sens de la rencontre, de fusionner avec les autres. Donc, de former des esprits de relations communautaires, ou communautaire n'est pas un terme péjoratif, hein, mais c'est justement le fait qu'on est associé à plusieurs groupes, en utilisant un terme classique de la sociologie, à plusieurs groupes sociaux, et donc on migre entre ces groupes. Et donc la grande ville nous permet justement, par rapport aux petites villes, cette grandeur de formation de communauté.
Donc, et on est déjà avec ça dans Mad Men, on est déjà dans les prémices de ça.
C'est un monde qui s'annonce, hein, parce que c'était surtout l'explosion de la culture de masse, il faut pas l'oublier, donc du spectacle, la culture de masse, donc de la naissance des métropoles et donc des occasions de rencontres. Et donc ça annonce, à mon avis, ça annonce le monde que nous vivons aujourd'hui, où il y a toujours l'idée d'anonymat, l'idée d'anomie et l'idée de rencontre, l'idée de communauté.
Merci beaucoup Fabiola Rocca. Je rappelle que votre article Mad Men, style et culture de l'empire publicitaire a été publié dans la revue Société. Tout de suite, c'est la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique du jeudi qui est, vous le savez, une carte blanche que nous proposons à un grand lecteur, une grande lectrice ou un grand spectateur de séries télévisées. Aujourd'hui, nous vous avons invité pour cela Nathalie Frolov. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes
Mathieu.
Professeur en classe préparatoire au lycée Louis le Grand à Paris. Vous allez nous parler à la fois séries et puis aussi littérature. Un mot peut-être sur votre vision de cette série-là. Comment est-ce que vous l'avez découverte d'ailleurs ?
Alors en fait, parce que je regarde beaucoup de séries, et c'est vrai que Mad Men, dès le premier épisode, en fait, est une série absolument fascinante, magnifique. Et je voulais justement partir du premier épisode, qui est, je trouve, très programmatique. Premier épisode, donc, il va nous montrer ce fameux moment, enfin, tout à fait extraordinaire, lorsque Don Draper, en fait, va trouver le slogan « It's toasted », qui est quand même tout à fait extraordinaire, devant tout le... justement, toute cette famille qui strike, qui sont tous en train de fumer devant lui, enfin bon, c'est tous en train de tousser, d'ailleurs. Et je trouve aussi, en fait, surtout d'un point de vue formel, ce premier épisode très intéressant. D'abord, et vous venez de l'évoquer justement avec votre invité, sur la question de la représentation de la ville. On a vu les très très beaux plans en plongée, en contre-plongée des buildings, comme on le voit chez Hitchcock par exemple. Mais je pense aussi à la question des couleurs extrêmement saturées qui effectivement peuvent renvoyer aussi, je pense bien sûr au film de Douglas Sirk, Imitation of Life, Le Mirage de la Vie, où on a ce même type de couleurs. Alors, bien sûr, d'une certaine manière, la littérature n'a pas forcément pris la publicité comme un milieu où il peut se dérouler des histoires. Ce qui va m'intéresser ici, c'est plutôt comment les slogans de la publicité peuvent en fait être intégrés à la littérature. Alors je pensais en fait, tout d'abord bien sûr à Pérec, hein, je me souviens, à l'évocation des pilules Carter ou du fameux bébé Cadom, qu'on connaît tous.
Mais vous pensez aussi, c'est peut-être plus inattendu, à Annie Ernaux, Nathalie Frolov.
Oui, alors effectivement, il se trouve que chez Annie Ernaux, c'est en fait très visible, cette intégration de la société de consommation et des slogans. On peut penser à « Regarde les lumières, mon amour », qui, d'une certaine manière, va élever l'hypermarché au rang de la littérature, va l'intégrer. Et c'était assez intéressant de voir à quel point ce livre a d'ailleurs été reçu de manière un peu compliquée. Certains disant « Mais quelle idée d'écrire sur un supermarché ?» Mais c'est surtout, en fait, je trouve, dans les années, que le langage de la publicité va entrer en quelque sorte par effraction. On va trouver au sein de listes, les meubles évitants sont garantis pour longtemps, chantelle la gaine qui ne remonte pas, et surtout le dop, adopter le shampoing dop, qui renvoie peut-être un peu au fameux It's Toasted. En fait, Annie Ernaux, elle va intégrer ces différents slogans publicitaires à des listes qui vont mettre sur le même plan, je dirais, sa vie, la vie d'une femme, mais en même temps toute une réalité du monde, puisqu'il va y avoir les mots qu'on emploie à une certaine époque, qu'il va y avoir des filles historiques, qu'il va y avoir des phrases de chansons dans ces listes. Et c'est vrai que les listes, c'est vraiment une forme qu'Annie Ernaux va beaucoup utiliser, en renvoyant et en faisant un clin d'œil, bien sûr, à ses origines sociales, le café épicerie de ses parents à Yvetot, ou bien sûr, à la fameuse liste de courses, qu'on va trouver dans un caddie oublié, par exemple, et qu'on pratique tous, les listes de courses. C'est vraiment, le point de départ de cette forme qu'elle utilise beaucoup, et vraiment dans les années, et où c'est bien sûr une manière de dénoncer la société de consommation, ça c'est évident, elle parle de la dictature douce, ça c'est très net, il y a bien sûr une dénonciation du capitalisme, mais au-delà de cet aspect politique, elle montre surtout que la mémoire est matérielle. C'est ce qu'elle dit en fait dans l'atelier noir. On ne peut pas distinguer une mémoire individuelle d'une mémoire collective. Et donc, les slogans participent justement de ce langage commun. Ils vont devenir les nouveaux proverbes. Colgate, c'est la santé de vos dents. Voilà, ce sont les phrases toutes faites qu'on peut sortir dans une conversation. Donc il y a vraiment ici, je dirais, par l'utilisation de la forme comme ça de cette liste, presque une écriture visuelle qui apparaît, donc ce qui est très intéressant, je trouve, par rapport à Mad Men. Elle parle elle-même d'une collection d'instantanés. On pourrait évoquer effectivement le carrousel dont vous parliez hier avec Nathalie Azoulay, ce carrousel Kodak. Là, ici, c'est la même chose, c'est une collection d'instantanés. Les listes, elles invitent à une lecture, bien sûr, horizontale, linéaire, mais aussi à une lecture verticale. Et on voit ici cette volonté, c'est une manière de créer cette écriture photographique du réel qu'elle cherche en fait à identifier. Donc je trouve qu'ici il y a peut-être un parallèle un peu osé hein, entre les couleurs très saturées qu'on a effectivement dans Mad Men et les listes. Dans les deux cas, c'est une manière à la fois de dénoncer la société de consommation et en même temps de la montrer en quelque sorte et de montrer qu'il y a toujours une fêlure derrière cet ensemble qui peut sembler harmonieux.
C'est un peu osé, mais c'est aussi parce que c'est osé que c'est très intéressant. Merci beaucoup Nathalie Frolov, à bientôt. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous terminons notre cycle d'émissions consacré à Matthew Weiner, le créateur de la série Mad Men, avec l'américaniste Romain Huret, spécialiste des inégalités sociales et économiques aux États-Unis et auteur de livres comme par exemple Katrina 2005, L'ouragan, l'État et les pauvres, publié en 2010 aux éditions de l'EHESS. Et nous repartons dans cette dernière ligne droite avec un extrait du discours sur l'état de l'Union de Barack Obama. C'était en 2014 quand l'ancien président américain faisait référence à la série Mad Men à propos précisément de la manière dont les femmes y étaient représentées.
Now today, women make up about half our workforce. But they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. Now, a mother deserves a day off to care for a sick child or a sick parent without running into hardship. And you know what? A father does too. It is time to do away with workplace policies that belong in a Mad Men episode.
Barack Obama qui pointait donc les inégalités de revenus entre hommes et femmes, le manque de vacances également des femmes pour s'occuper de leurs enfants et qui dit « on se croirait dans un épisode de Mad Men ». Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Donc on vient d'entendre ce discours du président américain, de l'ancien président américain. Il ne parle pas d'un épisode en particulier, il parle de l'atmosphère d'inégalité qui est représentée, mais que ça aille tout de même jusqu'au plus haut niveau de l'État américain dans ce discours de l'État de l'Union qui est quand même le grand discours annuel du président américain. Ça prouve l'importance tout de même qu'a eu cette série sur les questions sociétales.
Absolument, une très grande importance. Et la série symbolise un âge d'or pour certains Américains hein, où les hommes étaient très dominants, très puissants, fumaient des cigares et buvaient du whisky sans la présence de femmes dans les bureaux.
Est-ce que les électeurs de Trump seraient nostalgiques de cette époque-là?
Beaucoup sont nostalgiques des années 50. Hein. C'est une période complètement mythique aux États-Unis. C'est un monde perdu pour beaucoup d'électeurs de Trump. Hein. Ils ont l'impression que c'était un moment, un instant où l'autorité était en place, où les vraies valeurs américaines étaient présentes. Et donc beaucoup regrettent hein, cet âge d'or qu'ont connu leurs grands-parents hein, maintenant. Même si, on va en reparler, je crois que cet âge d'or est largement mythique. Et la série est peut-être plus complexe que ce que dit Obama à des fins politiques, et on peut le comprendre. Mais on voit bien que même la série est peut-être plus complexe, plus nuancée sur ce soi-disant âge d'or des hommes blancs dans les années 50.
Mm-hmm. Alors en quoi précisément, puis on parlera des femmes après, mais parlons des hommes peut-être pour commencer, ce n'était peut-être pas non plus pour les hommes un âge d'or selon vous, Romain Huret?
Parce que les femmes sont présentes, hein, et beaucoup plus qu'on le voit dans la série. La publicité était un monde d'hommes, dirigé par des hommes, mais ces publicités rencontraient un grand problème, qui était le suivant, ce sont les femmes qui achètent. Et donc, même si on ne le voit pas dans la série, il y avait des départements d'achat et de conseils où des femmes travaillaient pour conseiller ces publicitaires.
Donc on voit bien que la réalité était beaucoup plus complexe. Hein.
Il fallait parce que les femmes sont à la maison.
Sont à la maison, bien sûr.
Ce sont donc elles qui font les courses.
Ce sont elles qui font les courses, bien sûr. Ça, je vais pas nier cela. Hein. Bien évidemment, on était dans une Amérique de la séparation des sphères et d'autant plus forte qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment voulu renvoyer les femmes à la maison, les femmes américaines, hein, avec cette idée qu'elles allaient être libérées par la propriété privée,
par les
la maison, par les aspirateurs et par le reste. Mais néanmoins, des femmes travaillaient déjà. C'est-à-dire que on a le sentiment dans la série que les femmes d'un coup surgissent brutalement dans les années 50, mais les femmes étaient déjà présentes, notamment dans les grandes villes, des femmes indépendantes qui d'une certaine manière étaient pionnières hein, en la matière, hein, mais qui étaient présentes et qui côtoyaient déjà ces hommes et qui remettaient en cause un certain nombre de leurs préjugés et de leur idée que les femmes ne pouvaient pas travailler et que leur seule place était à la maison.
Donc la publicité est un milieu qui paradoxalement est en avance sur la question de la place des femmes dans le travail par rapport aux autres sphères de la société. Et ça, la série aussi montre justement toutes les tensions, toutes les frictions que cela peut créer parce qu'il y a un décalage précisément dans ce milieu-là.
Tout à fait. Il y avait une séparation des rôles qui est très nette dans la série. C'est-à-dire que les femmes étaient acceptées dans les entreprises, et notamment ces entreprises de col blanc, hein, dans le monde de la publicité, exclusivement à des fonctions de secrétariat. Elles aidaient les hommes à faire leur travail, à gérer leur emploi du temps, etc.
Là, on voit bien un espèce d'open space géant avec des bureaux alignés où sont installées assises des dizaines et des dizaines de femmes en réalité. Il y en a vraiment beaucoup de secrétaires dans Mad Men.
Tout à fait, c'est très bien, on le voit très bien, et c'est très visuel, donc ça fonctionne très bien et on attend d'elles qu'elles soient très apprêtées, très bien maquillées,
prendre le manteau publicitaire qui arrive.
On est vraiment dans cette séparation des sphères très fortes et cette domination masculine. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y avait d'autres, même si on ne le voit pas dans la série, il y avait des lieux pour ces femmes hein, qui exerçaient des fonctions plus intéressantes que celles décrites dans la série et où elles, déjà, dès les années 30, hein, années 30-40, on voit ces femmes qui cherchent à trouver leur place dans ce monde d'hommes et elles ne voient pas pourquoi elles sont reléguées à des fonctions subalternes alors qu'elles aident à préparer les campagnes publicitaires, à réfléchir aux produits, à la manière dont ces produits peuvent être présentés aux femmes qui achètent ces produits. Donc on a un monde professionnel qui est peut-être plus complexe que ce qu'on voit dans la série.
Alors non seulement il est question des femmes, mais il est question en particulier dans Mad Men des célibataires, des femmes célibataires, et c'est encore une sous-catégorie qui est étudiée assez finement par Matthew Weiner.
Oui, tout à fait. La série est assez intéressante parce que c'est une critique assez forte du mariage, de ce qui est l'idéologie dominante dans les années 50 et le début des années 60. Le mariage est roi aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas de vie pour une femme sans mariage, sans maternité, et pour les hommes également. C'est-à-dire qu'il est très mal vu de ne pas être marié. On soupçonne une homosexualité, on soupçonne un vice, on soupçonne quelque chose de caché, de très grave. Hein, si vous n'arrivez pas à trouver un conjoint ou une conjointe dans l'Amérique des années 50. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que tous les hommes mariés sont assez malheureux en mariage. Hein. On voit bien qu'ils trompent leurs femmes, ils s'ennuient. On sent que le foyer n'est pas du tout un foyer rassurant, le foyer n'est pas protecteur, n'est pas épanouissant, y compris pour les hommes. Hein. On parlera peut-être des hommes également. Mais on voit aussi des personnages qui ne veulent pas se marier, notamment la Peggy Olson, hein, qui est l'héroïne de la série, et qui ne souhaite pas entrer dans ce moule du mariage. Hein. Elle voit bien que c'est un corset beaucoup trop rigide pour elle, et elle contemple, hein, elle observe hein, ces hommes mariés, frivoles, qui s'ennuient, et qui ne sont absolument pas heureux dans ce monde qui, soi-disant, doit leur promettre le bonheur et l'épanouissement, ce monde du mariage, et qui, en fait, sont très malheureux et assez sombres, assez mélancoliques. Hein. Les personnages masculins dans Mad Men sont extrêmement mélancoliques.
Mmh. Donc, vous êtes intervenu sur ce thème dans le séminaire d'Emmanuel Burdeau, qui s'est tenu au Jeu de Paume, sous le nom politique d'une série, L'Amérique de Mad Men. Vous faisiez à ce moment-là aussi une référence à un autre grand auteur, un cinéaste, celui-là, c'est Hitchcock, pour dire que c'était une vision des femmes et des célibataires qui était largement partagée à cette époque, et Hitchcock aussi semblait ne pas finalement avoir une vision très moderne de la place de la femme. Contrairement, oui, à Matthew Weiner, mais enfin, qui arrive bien plus tard, évidemment.
Tout à fait. Dans le cinéma d'Alfred Hitchcock, il y a beaucoup de célibataires, hein, hommes et femmes. et qui ont des troubles hein, psychologiques, des névroses. Vos auditeurs et auditrices les connaissent, s'en souviennent, on les connaît tous hein, dans notre imaginaire cinématographique. Mais on voit très bien que Hitchcock renvoie, c'est la manière dont on considère les célibataires dans les années 50 et au début des années 60, on les considère comme des êtres malades, des êtres qui ont un problème avec la société, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver un conjoint. Et la pression sociale est extrêmement forte. Hein. Tous les écrits des grandes féministes des années 60 hein, racontent bien cette incroyable pression sociale hein, qui pèse sur les hommes et sur les femmes pour se marier, pour trouver un conjoint et pour enfanter pour les femmes.
Et vous pensez peut-être au livre de Betty Friedan, La femme mystifiée, qui a été traduit en français par Yvette Roudy, qui était quand même la première ministre du droit des femmes du gouvernement Mauroy. Alors, vous parlez évidemment beaucoup de ce personnage de Peggy Olson. C'est peut-être celui qu'on va prendre justement en ligne de mire dans cette émission, en rappelant peut-être aux auditeurs un petit peu qui elle est et pourquoi finalement, elle est et elle devient, parce que tout au long des différentes saisons, elle prend une importance qui est sans cesse changeante, mais qui est toujours très 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 forte. Pourquoi elle devient un personnage iconique de cette série ?
Peggy Olson, c'est ce qu'on appelle la fille qui veut faire carrière en anglais et qui entre dans cette entreprise hein, comme qui exerce des fonctions assez subalternes et qui progressivement gravit tous les échelons hein, dans un monde d'hommes. Et qui montre bien, qui symbolise, hein, je pense que le scénariste voulait absolument faire cela, qui symbolise la quête d'émancipation de ces femmes hein, qui vont progressivement s'extraire de tous les carcans, celui du mariage, celui de la domination masculine, et qui vont acquérir chèrement, parce que c'est pas facile, hein, elles vont le payer aussi en combattant sans cesse. On voit bien que les épisodes montrent bien ce combat permanent contre ces hommes, contre les remarques sexistes, etc.
Y compris avec elle-même, parce qu'elle a internalisé quand même sa position, on le voit très bien au fur et à mesure des saisons, qu'elle se libère quand même un petit peu de cette internalisation de la place de la femme.
Bien sûr, bien sûr. Et on va la voir progressivement au fil des épisodes changer sa coupe de cheveux, ses habits, et progressivement elle va acquérir une indépendance dans un monde difficile, même si certains reprochent au scénariste d'avoir peut-être trop montré qu'elle reproduisait des codes hyper masculins, comme beaucoup de femmes qui doivent conquérir fortement leur place dans un monde d'hommes. On voit qu'elle surjoue hein, les codes masculins, la consommation de whisky, la consommation de cigarettes, la dureté parfois, la manière de marcher aussi. On voit qu'elle s'impose en faisant comme les hommes, entre guillemets. Donc l'indépendance n'est pas complètement acquise puisqu'elle n'arrive pas tout le temps, certains critiques l'avaient souligné, elle inverse en quelque sorte les codes, mais qu'elle a intégré, comme vous l'avez dit, un peu trop fortement.
Oui. Alors, on la suit dans toutes les étapes de sa vie. On découvre sa vie amoureuse, sa vie sexuelle aussi, et puis l'emprise que les hommes peuvent avoir précisément sur sa vie sexuelle et érotique.
Oui, absolument. Il faut pas oublier que les célibataires dans les années 50-60 ont très peu de droits. Donc, prendre la décision de ne pas se marier, c'est se mettre en danger aussi dans la vie sociale et la vie quotidienne. Et il y a une scène tout à fait frappante hein, où elle se rend chez le gynécologue et le gynécologue lui explique ce que doit être sa vie sexuelle.
De façon très paternaliste.
Très paternaliste. Hein. Une scène qui renvoie à des débats intéressants sur les violences gynécologiques. Hein. C'est une scène que, à titre personnel, je trouvais très brutale. Hein. On voit ces instruments qui ressemblent à des instruments de torture. Hein. Donc c'est une scène assez choquante, mais qui est très intéressante quand on la relie à ces formes de domination masculine qui sont assez discrètes, hein, qui n'apparaissent pas dans l'espace public, mais qui sont de l'ordre de l'intime. Et on voit bien comment son refus de se marier, son refus de mener une vie sentimentale et amoureuse et sexuelle classique, hein, l'a conduit à se heurter à ces formes de domination masculine et aux propos paternalistes que vous soulignez.
Alors les propos paternalistes condescendants, il y en a beaucoup dans la série. Je vous propose d'écouter précisément un extrait où on voit les concepteurs rédacteurs, hommes, discuter entre eux de la campagne Playtex.
Quoi de neuf ?
On a eu une idée intéressante.
Comment ça, on ? Vous bossez sur Playtex, vous ?
Il veut qu'on le félicite pour son idée.
Vous êtes vraiment sûr de vous ?
On va voir. On a bu un verre l'autre soir, après le boulot. Appelons ça une petite réunion informelle. Et j'ai regardé les filles du bar.
Comme nous tous.
Si je comprends bien, Playtex vend un soutien-gorge très agréable à porter, mais il ne vous fait pas rêver.
Absolument.
Donc, j'ai eu une idée. Les femmes d'aujourd'hui ont déjà tout un rêve. Et ce n'est pas de voir les pyramides. Leurs rêves sont ici, en Amérique. C'est Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe. Les femmes sont soit l'une, soit l'autre. Venez voir. Jackie. Marilyn. Jackie. Marilyn. Quoique, peut-être que c'est plutôt l'inverse. Marilyn est une Joanne.
C'est une idée intéressante. Et une brillante démonstration.
Des auteurs sur France Culture. Quelle analyse peut-on faire de l'extrait qu'on vient d'entendre, Romain Huret ?
C'est un extrait passionnant, hein, puisqu'il renvoie à ce qui, pour les féministes dans les années 60, deviendra le symbole de la domination masculine, à savoir le soutien-gorge. Hein, et beaucoup brûleront de manière... À la fin des années 60, beaucoup de féministes brûlent le soutien-gorge qui incarne cette domination des hommes dans l'Amérique des années 60. Mais il y a un point que je trouve... extrêmement intéressant, c'est la manière dont les femmes sont réduites à Marilyn ou à Jackie Kennedy. Elles sont réduites à des icônes qui font rêver toute l'Amérique des années 50. Et beaucoup de femmes contestent ce choix qui est très limité. Elles n'arrivent pas à... Elles doivent être parfaites, elles doivent être iconiques. Et c'est la mystification dont parlait Betty Friedan dans le livre « La femme mystifiée ». Où elle raconte qu'elle-même, jeune fille, étudiante brillante, qui va faire des études à Berkeley, sa famille lui dira qu'elle doit ressembler à Marilyn ou à Jackie, qu'elle doit se marier, et qu'elle ne doit pas continuer. Ce n'est pas respectable pour une femme de faire des études, de devenir une grande universitaire, et qu'elle doit donc aller se marier. Et elle va appeler ça la mystification. C'est là où vraiment les femmes sont manipulées par la publicité, par les hommes qui leur expliquent que le seul moyen d'exister, c'est de porter un soutien-gorge et de plaire à leur homme.
Mais alors, à la fin de l'extrait qu'on a entendu, il y a quand même l'un des publicitaires qui dit « Ah, ça, c'est Joan. Finalement, c'est plutôt Marilyn qui lui ressemble. » C'est vrai que ça, c'est un personnage très ambivalent, d'une femme qui va réussir beaucoup. Je ne veux pas divulgâcher non plus trop la série, mais enfin, qui va arriver assez haut dans la hiérarchie et qui, pourtant, joue sur un côté ultra féminin, alors que Peggy est dans un féminisme qui est, vous le disiez tout à l'heure, plutôt du côté de l'imitation, entre guillemets, du masculin. Donc il y a vraiment dans la série comme si il existait deux pôles de féminisme. Je ne sais même pas si on peut d'ailleurs parler de féminisme à travers ces deux figures de femmes.
Oui, je pense et ça va être un combat au sein du mouvement féministe américain dans les années 60 sur la manière dont il faut... attaquer la domination masculine. On va avoir des féministes qui vont être plus modérées, qui vont chercher simplement à vivre avec les hommes et à trouver la place pour les femmes. Et on aura un mouvement plus radical, les femmes qui brûlaient les soutiens-gorge, qui vont dire qu'il faut s'attaquer à la domination masculine partout où elle est et qu'il faut peut-être créer des communautés pour les femmes, s'isoler du monde des hommes, tant que ce patriarcat... qui prend des formes très multiples, n'aura pas disparu.
Pour terminer, j'aimerais m'adresser vraiment à celui qui a regardé la série en vous, le spectateur, et peut-être aussi l'amateur de tout cet univers finalement graphique. Qu'est-ce qui vous semble vraiment intéressant dans Mad Men, vous qui connaissez bien aussi les États-Unis, d'un point de vue cinéma et d'un point de vue graphique ?
En tout, je pense que c'est une série qui est extraordinaire par la complexité qu'elle présente, qu'elle met en scène des rapports sociaux aux États-Unis. Et ça, c'est le scénariste a vraiment réussi un tour de force, je crois, en créant des personnages complexes. On a beaucoup parlé des femmes aujourd'hui, mais on a pu parler des hommes aussi, qui sont beaucoup plus complexes. Et je trouve que l'intérêt de la série... c'est précisément de mettre de l'épaisseur sociale, de l'épaisseur culturelle. C'est le format série permet cela, puisque vous suivez vos personnages sur plusieurs années. Et je trouve qu'on voit on voit bien la complexité des années 50 et des années 60, au-delà des discours politiques dont nous parlions au début, hein, ce soi-disant âge d'or des hommes qui auraient eu tous les pouvoirs dans les années 50 et qui étaient maîtres d'eux-mêmes et très heureux de cette Amérique.
Tout le monde est malheureux, alors.
Pas tout le monde est malheureux. En tout cas, on voit bien que le mariage, c'est pas forcément le bonheur, que la domination masculine est loin de le faire également, que les personnages de femmes ont réussi à s'intégrer, peut-être bien avant les années 60, hein, ont réussi à trouver leur place. Donc on a un monde social beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre aujourd'hui aux États-Unis.
Merci beaucoup Romain Huret d'être venu aujourd'hui nous parler notamment des femmes et en particulier de Peggy Olson dans la série Mad Men. Je rappelle que vous êtes donc intervenu sur ce thème dans un séminaire organisé au Jeu de Paume par Emmanuel Burdeau sur l'Amérique de Mad Men. On peut citer également votre ouvrage Katrina 2005, L'Ouragan, l'État et les Pauvres, publié en 2010 aux éditions de l'EHESS. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin, Laurent Travagli-Chanal et Maïwenn Le Jehan. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'auteur du Protocole compassionnel et de Alami, pardon, qui ne m'a pas sauvé la vie. Je veux parler évidemment d'Hervé Guibert, mais tout de suite sur France Culture, vous retrouvez la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour. Bonjour la compagnie, les ronces, allons-y feuilleton. Gageons que Cécile Coulon est annonciatrice d'une autre posture à nos géographies. Sa manière d'exprimer son attache à la forêt, aux montagnes, les poètes donnent parfois l'impression d'être des êtres en vacances dans leur maison. Or Cécile Coulon ne parle pas du jardin par sa fenêtre et des brumes du matin, non, elle choisit le monde, Esaut. Comme point d'attache au monde, la ville d'Esaut, plusieurs fois fait titre ses poèmes, on croirait une ville de Judée, Esaut. Comme toujours, il faut rentrer, quitter les montagnes pour d'autres montagnes, quitter les ancêtres pour d'autres ancêtres, le même sang, la même pierre, les lacets de goudron entre les forêts, aussi profondes que les ravins qui les bordent. Comme toujours, il faut rentrer, quitter les troupeaux pour d'autres troupeaux. Quitter une église pour une cathédrale plus noire que les nuits d'ivresse sage que nous passons là-bas, dans l'espoir stupide de trouver, à l'ombre des ahuts, un peu de cette bienveillance naturelle que nous ne possédons plus qu'en bribes spontanées. Après une longue sieste dans l'herbe sous les arbres sans feuilles, quelqu'un a émis, à voix haute, l'hypothèse que nous forgeons tous en silence depuis quelque temps, restez. Une voix douce a répondu, la main droite à peine levée sur les yeux, embuée d'alcool et de sommeil, pourquoi pas? En attendant d'avoir cet ultime courage de ne ressembler qu'à nous-mêmes, comme toujours, il faut rentrer, quitter les piscines vides, ranger les cendriers. Sur le chemin du retour, ne reste que la lumière qui traverse en diagonale le visage endormi de la France, et les soleils superbes qui s'écrasent en bouquets sur les falaises des Esaut, où nous aurions voulu rester. Mon amour, c'est la fièvre qui parle avec ses lèvres crevées d'avoir aussi soif qu'un chien mourant sous une marche d'escalier, avec son corps brisé en travers des draps trempés, ses plaintes tranchées par des larmes brûlantes. Nous n'avons plus l'habitude d'avoir mal. Cette nuit, mon amour, c'est la fièvre qui parle de toutes ces histoires qui n'ont rien à faire dans la nôtre, de tous ceux qui n'ont pas leur place près de ce feu que tu as, de ce feu qui réchauffe. Tu sais bien que le monde entier ne tient pas dans ma gorge. Ces tempêtes m'étouffent, que je ne peux pas garder longtemps. Pour moi, les infidélités des autres, mon amour, c'est la fièvre qui gronde avec ses longs yeux clos brûlés par la lumière du jour, avec ses doigts craqués autour d'un oreiller trop lourd, où j'écrase des narines fumantes, j'entends dehors les hommes qui inondent la rue de leurs sanglots, c'est la fièvre qui chante, mon amour, je n'ai pas réussi à retrouver les langes de mon berceau, je n'ai pas réussi à prendre la hauteur nécessaire, je n'ai pas su jouer à la guerre, mon corps est mon tombeau. Il grince plus fort qu'un parquet de bois sec. Je ne supporte plus les assauts du quotidien, le désespoir solide des employés de bureau. Je ne sais plus faire avec. Mon amour, tu me tiens dans ton bec. Il faudra partir loin. Il faudra partir bientôt.
Jacques Bonafé, merci.